enkele minuten kan aan in Brussel-Zuid. Mesdames, messieurs, dank elke week. Nous arriverons à cœur de Bruxelles-Midi.
Reprise de terre, c'est une démarche collective d'enquête et de réflexion portée notamment par l'excellente Revue Terrestre, au pluriel. Revue des livres, des idées et des écologies pour envisager des mondes qui auraient d'autres contours que ceux de la modernisation industrielle et capitaliste. Reprise de terre, c'est une dynamique qui s'est constituée depuis plus d'un an pour reprendre et libérer des terres face à ceux qui les détruisent et les accaparent. En voilà une bonne raison de prendre le train avec un bon guide de voyage à la main.
C'est...
Je suis Geneviève Quinet, une habitante du quartier. J'ai découvert en 2015 cet endroit qui était bien caché. Et voilà, d'un espace que j'estimais beau, je me suis rendu compte que c'était un espace qui était en même temps essentiel, utile, puisqu'il faut que ce soit utile. Et donc, avec d'autres habitants, on a commencé depuis 2015 la défense de ce lieu.
Alors Geneviève, là on est tout près du centre de Bruxelles.
C'est Forêt, oui, bah c'est une des 19 communes qui finalement est assez proche de la gare du Midi. C'est pas le centre, c'est pas Bruxelles-Ville, mais c'est tout proche, oui.
Et donc il y a un arrêt de tram là qui s'appelle Wils, comment tu prononces
Wils? On prononce Wils, alors c'est Wils ou Wilmans, sur le... ouais. Ouais, c'est pas très clair l'arrêt du tram. Bah, il s'appelle Wils parce que on a le centre d'art contemporain qui est ici derrière, hein, qui est dans un super bâtiment de Blom, qui s'appelle le Wils parce qu'en fait il occupe un bâtiment des anciennes brasseries Wilmans-Köppens qui ont entre autres produit la bière qui s'appelait Wils, puisque en fait c'était la famille Wilmans-Köppens qui produisait les bières. Une grosse entreprise qui a eu beaucoup de renommée internationale.
C'est une rue passante avec effectivement beaucoup de circulation, des trams, du bruit.
Oui.
Et là, il y a une petite. Il y a un petit paradis derrière, quoi.
C'est en ça. Tout cas, ouais. Il y a un petit paradis qui a été très très longuement caché et qui l'est encore parce que finalement, il est issu d'un accident, d'une percée de nappe phréatique en vers 2007, toujours sur le site des anciennes brasseries Wilmans-Köppens. Voilà, on sent déjà que le silence, c'est pas le silence encore, mais c'est déjà prêt, ça commence.
Ouais. Et on est au bord donc des voies du chemin de fer, quoi.
Oui.
Alors, la voie ferrée, quoi.
Ouais. Mais au fait, la voie ferrée ici a vraiment redessiné tout le quartier quand on est venu la créer, parce qu'il faut imaginer qu'ici, avant l'industrialisation, avant la butte de chemin de fer, on est ici dans le bas de la vallée, la Seine. On a aussi une Seine à Bruxelles, et ici de l'autre côté. Donc on est dans le fond de la vallée et donc c'était extrêmement marécageux. Bon, Bruxelles, ça veut dire aussi marécage, mais ici on est vraiment dans le fond de la vallée. Et c'était des terrains marécageux et Forêt était très rurale. Beaucoup de moustiques, beaucoup de des fermes, etc. Donc il n'y avait pas toute cette industrialisation avec ce chemin de fer. Beaucoup d'industries sont venues s'installer. Et puis, dans les années 80, ça a commencé à péricliter, se fermer, etc. Donc tout le quartier en a souffert aussi.
Voilà. Ah, d'accord. Ça y est, on arrive au bord du marais, quoi.
Voilà. Le marais qui n'est pas un marais, hein. On s'entend. Il va falloir que je donne une explication, peut-être.
Ouais. Alors les trams passent d'un côté et les trains de l'autre. Et au pied là d'un bâtiment, hein, d'un vieux bâtiment industriel qui doit être du début du siècle précédent, c'est
Alors celui-là, c'est aussi, donc il fait partie des trois importants bâtiments du site des brasseries Wilmans-Köppens. Et celui-ci, on l'appelle le Métropole. C'était le bureau de la direction des brasseries Wilmans-Köppens. Il y a la façade frontale et latérale qui sont classées. L'intérieur, il y a deux petites choses classées, des toiles marouflées, mais je sais pas si c'est dans un super bon état encore. Et puis le reste, c'est les caves dans l'eau, depuis pas mal de temps.
Les caves sont dans l'eau, bien évidemment, ouais.
Ouais.
Et il est abandonné, hein, pour l'instant.
C'est-à-dire que maintenant, il appartient à la région.
Donc, ça a été une première bataille gagnée, quoi.
C'est ça. Un beau pas en avant. Mais il y a encore un projet de construction par la région de 80 appartements dessus. dessus, à côté, comment faire. Ils sont en train d'étudier la chose parce que un plan d'eau est protégé normalement. Il ne peut pas être réduit. Ceci dit, le problème, c'est que ce n'est pas encore légalement reconnu comme un plan d'eau. On est en plein surréalisme. Je voudrais pas toujours utiliser ce terme pour la belgitude, mais c'est quand même, on a une biodiversité, donc faune et flore typique d'un marais ou typique d'un plan d'eau, mais il n'est pas encore reconnu en tant que tel, puisque jusqu'en 2019, la région et le propriétaire précédent estimaient que c'était une flaque, une inondation, dans lequel il y avait à peine des poissons. Voilà, c'est tout ce qui était reconnu. Alors, heureusement, on a des observateurs qui, depuis 2015, sont là, hein, des amateurs, des naturalistes, etc., qui recensent dans toutes les friches tout ce qui est vivant. Et on a pu montrer qu'il y avait cette énorme biodiversité qui, en fait, elle correspond à la biodiversité d'un marais. Mais c'est pas un marais, en fait. Ça, c'est un plan d'eau qui est la résultante d'une excavation. Donc, au moment où on a voulu construire des bureaux ici, en 2007, on a percé la couche d'argile qui est au-dessus d'une nappe phréatique, qui elle-même est au-dessus d'une autre nappe phréatique. Enfin, bon, voilà, il y a plein d'eau ici. Et donc, ils ont percé cette couche d'argile, l'eau est montée, ils ont pompé, et puis ils ont abandonné le chantier en 2008, crise bancaire, et ils ont complètement abandonné pendant 10 ans, sans rien faire. Donc ici, on se trouve devant un petit paradis, une merveille de beauté et d'utilité pour l'homme aussi, et pour la biodiversité, pour le vivant, sans la moindre intervention de l'homme, sauf l'accident. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et ça ne coûte rien, au fait. C'est un bassin de rétention d'eau qui est nécessaire, parce qu'on souffre beaucoup d'inondations à forêt. C'est une source de fraîcheur, une source de santé mentale. C'est une source de conservation et de valorisation de la biodiversité. C'est une source d'apprentissage aussi. Donc tout ça, sans l'intervention de l'homme, est assez extraordinaire. Je trouve que c'est la recolonisation. Et donc, évidemment, tout ça a été construit, en fait. Hein, au moment de l'activité des brasseries Wilmanskoppen, c'était des hangars, des tonneaux tirés par les chevaux. Ici, il y avait on voit encore les rails de chemin de fer pour les industries. Donc, c'était en activité. Il y avait une vie intense. Hein. La dernière bière brassée, c'est 1988. Et puis, il y a eu un abandon pendant 20 ans. Une vraie friche, comme on en voyait beaucoup, hein, finalement, à partir de 80 dans toutes les villes européennes, je pense. Et c'est à partir de 2000 qu'on s'est dit, tiens, on va faire de ce quartier le quartier des arts, et on va mélanger le privé et le public. Comme ça, on aura des deniers privés pour pouvoir faire remonter, revitaliser le quartier. Donc, une fois que tout a été bien organisé entre privé et public, les travaux ont pu commencer ici pour faire des bureaux, comme c'était prévu, puisque à l'époque, on avait besoin de bureaux. Bruxelles a été construit de bureaux un peu excessivement.
Donc là, à ce moment, miracle de la nature, le marais est arrivé, hein, et ouais. Puis ça a bloqué le chantier.
C'est ça. Donc 2008, abandon. 10 ans, abandon du chantier. L'eau monte, la nature s'installe. Il y a toute une roselière qui est venue s'installer, mais tout naturellement, hein, tout ça c'était sec, aride, hein, et là ce sont des roseaux qui petit à petit viennent, sans doute parce qu'il y a de l'eau, parce que ensuite viennent d'autres arbres, ce sont en général des saules, donc ici il y a beaucoup de saules là au fond, et ensuite on va passer à d'autres arbres qui vont venir s'installer parce que les saules vont produire de l'humus, de la terre, vont assécher l'endroit, et ça peut devenir dans 70 ans une petite forêt. Alors normalement, dans ce cas-là, dans la nature qui n'est pas imperméabilisée, renaît un marais un peu plus loin, parce que l'eau va remonter. Mais ici, tout est imperméabilisé. Donc l'idéal serait quand même, sans doute, d'entretenir ces roseaux, cette roselière, de manière à ce qu'elle reste à l'état de roseau et de marécage.
Là, tu sors les jumelles.
Si.
Oui, oui, oui. On voit son petit duvet.
Bien.
Et sa petite tache orange sur les joues. Et il flotte comme ça, comme une petite châtaigne sur l'eau. C'est le grèbe castagneux.
Ah ouais, et un petit quoi, il y a une nichée quoi, il y a un peu de temps.
Ah mais au fait, oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'au fur et... en 2000... Ah, il vient de plonger. En 2014, il a été vu. On a vu qu'il avait niché, mais on ne savait pas s'il vivait dans le marais. On pensait qu'il venait pour nicher. Mais en réalité, il passe l'hiver ici maintenant. Et c'est ça qui est extraordinaire et c'est important de protéger ces espèces qui ne sont pas nécessairement encore protégées. Mais bientôt, elles vont devoir l'être, donc autant le faire maintenant. Et il y en a eu beaucoup, au fait, cette année, des nichées de grèbes castagneux. Et sans doute parce qu'il y a eu moins de d'ouettes d'Égypte et de bernaches du Canada qu'on voit sur beaucoup de plans d'eau et qui sont aussi invasifs. Parce qu'ils font beaucoup, beaucoup de nichées sur une même saison. Et donc, ils prennent un peu toute la place sur les plans d'eau. Et ici, il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Alors, ça a peut-être permis aux grèbes castagneux d'être plus en paix. On ne sait pas pourquoi. Ou alors, simplement, ça devient de plus en plus riche dans l'eau, hein, peut-être.
Alors, Geneviève, comment tu as découvert cet endroit, toi ?
En me baladant. Hein, tu vois que j'ai un chien. J'habite tout près. Je crois que c'était en 2015. Et voilà, je suis tombée en extase devant ce plan d'eau. Allez, honnêtement, je revenais de Berlin, d'un week-end ou d'une semaine à Berlin. Je me suis dit, waouh, on va faire des fêtes, génial, à la berlinoise, comme ça. Et j'ai rencontré ensuite la personne qui avait fait un relevé de cet endroit, donc un naturaliste, monsieur Léon Meganck. Et il m'a vraiment expliqué tout l'intérêt de ce lieu en tant que lieu de biodiversité, en tant que lieu de ressourcement pour soi, etc. Enfin, sans, il en mettait pas des grands mots, hein, mais c'est juste que... Et donc, moi qui ne m'intéressais pas particulièrement à la biodiversité ou à la nature, sans doute j'avais quand même une fibre, mais voilà, j'ai appris à reconnaître le grèbe castagneux qui est devenu notre mascotte. Et voilà, j'ai appris à reconnaître son cri ou son chant ou son rire. Et puis voilà, les mouettes, on a un cormoran là, de temps en temps on a un héron, un goéland. Ici il y a une foulque macroule, il y a des poules d'eau. Et on a décidé des habitants comme ça de nettoyer l'endroit un premier dimanche après-midi parce que c'était vraiment c'était assez sale, hein. Et puis après le premier dimanche on s'est dit non, en fait on va faire ça tous les dimanches après-midi de l'année 2019, et ça s'appelait des crades parties, parce que crade en français aussi. Donc voilà, on s'est appelé les fées fe.e.s du Marais. Parce qu'au fait, il y avait des hommes et des femmes, mais c'est voilà, on a fait toute une symbolique autour de ça, et tous les dimanches, on nettoyait. C'était une force collective, mais extraordinaire. Quand je regarde les images, c'est fort, parce que c'était dur, au fait. C'était très difficile comme boulot. Et voilà, je pense que ça a aussi permis de faire connaître encore plus cet endroit et de le faire respecter. Et c'est peut-être aussi de là que la région a fini par le racheter.
Et là, il y a quelques semaines, c'était au mois de septembre, tu es allé à Notre-Dame-des-Landes, à la ZAD. Oui. Il y avait une rencontre sur la reprise des terres, hein, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça. Et on a donc été invité par les auteurs du livre « Nous ne sommes pas seuls ». Et donc pour nous, c'était assez extraordinaire parce qu'on s'y attendait pas. On s'est retrouvés là, nous en tant que Belges. Et donc on s'est retrouvés là, on était 200 personnes à se rendre compte qu'en fait on n'était pas seuls et que c'est toujours le même problème. Mais je pense que c'est un combat international, c'est ça qui est important, de se rendre compte qu'on n'est plus seul. Je pense qu'il y a 10 ans, c'était très difficile de combattre contre les promoteurs immobiliers, et maintenant on commence à s'unir. Il y a une convergence des luttes, comme ça on le sent. Alors est-ce que ça va fonctionner? J'imagine qu'il y a une convergence aussi de leur côté, de leurs intérêts. Ouais.
Nous sommes un petit groupe d'habitants, d'habitantes, de lieux en lutte. Paysans, paysannes, chercheurs, chercheuses, militants, militantes proches de la revue d'écologie politique terrestre, à avoir construit une dynamique d'enquête collective sur ce que l'on appelle les reprises de terre. 4 constats guident notre démarche. Le premier, c'est le ravage écologique systémique, provoqué et nourri par la voracité extractiviste du capitalisme.
On peut peut-être avancer
un petit peu, ouais.
Qui met à mal les conditions de vie sur la Terre pour une immense part des vivants qui la peuplent. Le second, c'est l'émergence d'un mouvement climat encore tâtonnant, mais qui s'interroge sur le besoin d'ancrer ses luttes localement pour ne pas s'en tenir à des formes de revendications parfois hors sol.
Et vous êtes organisée comment alors, Geneviève ?
anarchiquement.
Ah oui, il n'y a pas de structure. Ouais, ouais. C'est un collectif.
C'est un collectif. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas encore de... c'est plutôt association de faits. Et chacun fait ce qu'il peut. Donc voilà, on doit arriver à un accord pour travailler avec Bruxelles Environnement. Ça prend du temps parce qu'il y a évidemment, à partir du moment où on le fait avec eux, il faut une convention, il faut des assurances, il faut... Tout est plus compliqué que le faire à la sauvage, quoi. Et c'est sans doute normal, hein, ces assurances, ben, ça fait partie. Voilà, on voudrait arriver à une gestion commune. Je pense que ça existe hein, dans différents cas à Bruxelles, mais ça prend juste du temps. Et de temps en temps, c'est vrai qu'on a un patient. Par exemple, pour quand on a fait les grands nettoyages, on a été impatient et on a bien fait de l'être parce que ça fait avancer les choses. S'il fallait toujours attendre, cet endroit serait peut-être construit maintenant. Donc voilà, il faut agir.
Le troisième, c'est l'indignation face aux inégalités sociales grandissantes, à la précarité, aux injustices environnementales, faisant infuser la nécessité de réponses émancipatrices et créatives à ces précarités multiples. Le quatrième, c'est la situation présente et à venir du foncier en France. De ces quatre enjeux découle une question centrale : comment inventer des tactiques foncières, politiques et juridiques pour contrer l'accaparement des terres par le productivisme et organiser la vie autour de communs qui prennent en compte tous les êtres qui habitent un lieu.
C'est bientôt demain, vous retrouverez toutes les infos sur le site de France Inter et sur celui de la revue Terrestre. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne ou en podcast.